Théologie naturelle, Père Philippe, Saint-Joseph, 21 octobre 1983.
Alors nous commençons ce cours sur la théologie naturelle. Je vais d'abord situer avec vous pour qu'on comprenne bien ce que représente ce cours, parce que de fait, beaucoup considère que la philosophie n'a pas à parler de Dieu. Je me souviens, c'était sitôt la dernière guerre, un de mes amis faisait un cours en Sorbonne et il avait déclaré qu'il ferait un cours sur Dieu. Alors vous comprenez qu'il y a eu pas mal de petites oppositions, des oppositions assez nettes en disant que en philosophie on ne parle pas de Dieu. Parler de Dieu en philosophie, c'est non, ça ne va pas, c'est quelque chose qui ne va pas. Et alors, il a repris en disant, notre philosophie occidentale dépend de la Grèce, les philosophes grecs parlent de Dieu, Descartes parle de Dieu, tous les philosophes parlent de Dieu, puisque même les athées parlent de Dieu. Puisqu'ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça prouve qu'il reste quelque chose. Ils désirent être au-dessus, mais ils se mettent en opposition. Si on est en opposition, il faut savoir contre qui on est en opposition. De sorte que je crois qu'il faut bien comprendre que le problème de Dieu est un problème, nous allons préciser, un problème qui n'est peut-être pas directement philosophique. Quant au nom, mais qui est directement philosophique quant à la réalité. Et je crois que ça, c'est très important de faire tout de suite la distinction. Parce que si nous ne faisons pas la distinction, nous tombons sous des quantités de critiques auxquelles on ne pourra pas répondre. Alors il s'agit de bien comprendre cela. Et je crois que c'est bon de commencer tout de suite par ce point de vue-là. Le nom Dieu relève des traditions religieuses. Ce n'est pas le philosophe qui a inventé le nom Dieu. C'est comme le mot âme. C'est la même chose. Dieu et l'âme, l'âme immortelle, l'âme spirituelle, ce sont des expressions, des noms qui proviennent des traditions religieuses. Toutes les traditions religieuses parlent de Dieu. Je vous ai dit, la théogonie d'Hésiode. Là, vous avez, j'allais dire, le recueil de toutes les grandes traditions religieuses sur les dieux. Et au-dessus des dieux, il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est Zeus. C'est très curieux de voir que même quand il y a un Olympe des dieux, il y a le besoin de considérer qu'il y a un dieu qui est chef de tous les autres, qui est le dieu éminent par excellence, Zeus. Il y a d'autres traditions religieuses qui sont encore plus précises, qui impliquent alors une révélation, du moins qui dit qu'elle implique une révélation. Je prends par exemple les musulmans. Dans l'islam, il y a une révélation. Le mot Allah, Dieu, créateur, tout-puissant. Alors, celui qui s'intéresserait à ça, et ce serait très intéressant à faire, au point de vue des traditions religieuses, de relever toutes les grandes traditions religieuses. Je ne vous demande pas de le faire maintenant, mais ce serait intéressant à faire. Et de voir dans ces traditions religieuses tout la manière, tous les noms de Dieu, tout ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Parce que ça met tout de suite un halo autour de celui qu'on désigne comme l'absolu, qui n'est pas le même dans la tradition chrétienne, dans la tradition judaïque, dans la tradition islamique, dans la tradition grecque, dans la tradition égyptienne. Très curieux, et c'est intéressant. Alors, vous prenez dans l'Inde, vous trouverez encore d'autres choses, et d'autres manières, et en Chine aussi, d'autres manières de regarder l'absolu. Et ça, ce serait très intéressant si on avait le temps, c'est ce qu'on devrait commencer à faire. On devrait faire ça, on devrait commencer par donner cette espèce de grand tableau, sans être historien des religions, mais prendre les résultats des historiens des religions. Ils travaillent pour nous. Ils travaillent pour nous parce qu'ils nous montrent ce que représentent les manières dont l'homme a recherché Dieu. Quand vous êtes devant les traditions religieuses animistes au Cameroun, en Afrique, là aussi, il y a une manière de regarder l'absolu. Et on comprend que le mot Dieu, ainsi que les attributs de Dieu, les noms de Dieu, parce que vous retrouvez les noms de Dieu dans la Bible. Le Très-Haut, le Tout-Puissant, Yahvé, Dieu des armées. Alors, vous trouvez les noms de Dieu, et ces noms de Dieu relèvent pratiquement de traditions religieuses. Alors, c'est très difficile de savoir ce que ça représente, les traditions religieuses, au point de vue philosophique. Je crois qu'on peut dire, si on est chrétien, le Verbe de Dieu éclaire tout homme venant en ce monde. Il y a donc une lumière divine qui est donnée à tout homme venant en ce monde. Et que tout homme a au plus intime de lui un appel vers Dieu. Du côté de son cœur, et du côté de son intelligence. Mais que très souvent, cet appel, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, cet appel vers Dieu ne peut pas s'épanouir. Il y a des idéologies qui empêchent cet appel de s'épanouir et d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Ces idéologies athées, quelqu'un qui est éduqué dans le monde marxiste d'aujourd'hui, on en rencontrera tous. J'en ai rencontré plusieurs fois à Fribourg, dans une circonstance très particulière, c'est-à-dire de ceux qui vraiment avaient été entièrement éduqués par l'athéisme et qui en même temps avaient gardé quelque chose de plus, un désir d'en sortir. Mais leur intelligence était marquée par le marxisme. Et il fallait ordinairement plusieurs années avant que l'intelligence puisse se réveiller. Et eux-mêmes le disaient. Ils avaient leur cœur qui était pris par Dieu. Ils comprenaient bien que le marxisme n'était pas suffisant, mais leur intelligence avait été marxisée. Et les psychanalystes d'aujourd'hui, les meilleurs, disent que c'est le plus grand des refoulements. Un monde comme le nôtre, qui commence à devenir un monde purement matérialiste, qui ne s'occupe plus de Dieu, qui rejette cette inspiration profonde de cet appel vers Dieu. Je crois que c'est un monde qui est capable des pires crimes, bien plus que ce que nous appelons le paganisme. Parce que le paganisme n'implique pas ce refoulement. Il y a deux grands refoulements. C'est le refoulement par rapport à l'amour vis-à-vis des parents et le refoulement par rapport à Dieu. Je vous ai déjà dit cette petite remarque des psychanalystes, certains que je connaissais, et qui à Londres, parce que ça s'est passé à Londres, ça aurait pu se passer à Paris, ça aurait pu se passer à n'importe où dans notre Europe ou en Amérique, était chargé d'essayer de comprendre ce que représentait le meurtre des enfants. Et pendant leur année, ils avaient soigné 400 cas de meurtre d'enfants, des enfants qui avaient tué, qui avaient assassiné, qui avaient blessé. Alors ils ont essayé d'étudier cela. Ils sont arrivés à ce résultat, ils auraient pu dire tout de suite, mais c'est intéressant de voir des psychanalystes qui disent ça. Ces enfants ont manqué d'amour parce qu'ils n'étaient plus rattachés à la source première de leur amour, La source première de l'amour pour nous, génétiquement, c'est nos parents. Et plus, d'une façon plus absolue, selon l'ordre de perfection, c'est Dieu. Et on est rattaché à la source par une attitude religieuse. Si on arrête cette attitude religieuse, eh bien, on empêche d'être uni à la source. Oui, c'est pour ça que j'insiste tellement sur l'adoration. C'est pour enlever tous les obstacles qui existent en chacun d'entre nous. Parce que nous vivons et nous respirons un air pollué des athéismes athées. Et l'adoration doit être pour nous l'occasion de revenir à la source. Pour revenir à cette source première qui est le mystère de Dieu qui doit prendre possession de notre cœur. Le mystère de Dieu qui doit éclairer notre cœur. Alors, c'est très important de comprendre ça. Et quand on commence un cours de théologie naturelle, il faut comprendre que c'est peut-être la chose principale que nous devrions faire aujourd'hui. J'hésite toujours de commencer par là, vous voyez. Je sais très bien que génétiquement, ce n'est pas vrai. Mais selon l'ordre des urgences, c'est le cours de théologie naturelle qui est le plus important. Selon l'ordre des urgences, c'est le théologie naturelle qui est le plus important, qui est de fait pour nous le cours qui doit nous empêcher de tomber dans ce refoulement intellectuel et ce refoulement affectif. Parce que je crois que les refoulements intellectuels sont plus dangereux que les refoulements affectifs. C'est ce que Freud n'a pas vu. Et c'est ce que les Grecs ont vu. Et c'est là où Freud est battu par les Grecs. On essaiera de voir une fois ça, parce que c'est très important pour nous de relativiser Freud, parce qu'il n'a vu qu'une sorte de refoulement, les refoulements affectifs. Les refoulements affectifs, ce sont ceux qui se manifestent le plus. Mais le refoulement intellectuel, c'est les plus dangereux, parce qu'on ne peut jamais se redresser si, de fait, notre intelligence ne respire pas un air pur. Si notre intelligence est vraiment dans un état de refoulement, je crois qu'on n'arrivera jamais à purifier totalement notre cœur. Et donc, on n'arrivera jamais à sortir de certaines angoisses. C'est l'intelligence qui permet de sortir des angoisses les plus profondes. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de secondaire, le cours de théologie naturelle. C'est primordial dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, comprenons bien. Le mot « Dieu » vient des traditions religieuses. Le mot « Dieu » vient des traditions religieuses qui sont l'homme qui cherche à rejoindre Dieu. Les traditions religieuses, on peut dire que c'est l'homme qui, au plus intime de son cœur, au plus intime de son intelligence, essaie de rejoindre sa source. C'est ça, les traditions religieuses. Redécouvrir notre source. Au-delà de toutes les difficultés qu'il y a. Et cette source, elle est bien cachée, hein. On essaiera de voir tout ce qui a caché cette source. Redécouvrir cette source au plus intime de notre intelligence. Notre intelligence est faite pour Dieu. Notre cœur est fait pour Dieu. Naturellement. Alors, le nom Dieu relève des traditions religieuses qui nous montrent ça. Un athée devrait, s'il était loyal au point de vue de son intelligence, et c'est toujours ce qu'il faut tenir le langage auprès des athées. Quand on rencontre des athées qui sont pris par les idéologies athées, posez-leur le problème. Que représentent ces grandes traditions religieuses? Alors ils vous diront, ce sont des mythes. Ça c'est sûr. Que représente l'art religieux? L'art est né dans une attitude religieuse. Et là, vous ne pouvez plus parler de mythes. Parce que quand vous êtes en face d'un mythe, le mythe ne réalise rien. Mais il y a des mythes religieux qui peuvent être quelque chose de réel. Le mythe n'est pas purement imaginatif. Les vrais mythes religieux touchent toujours à quelque chose de réel. Et c'est pour ça que ces mythes religieux peuvent être source d'une inspiration artistique. Si ces mythes étaient purement imaginatifs, ils ne seraient pas source d'une inspiration artistique. Or, ils ont été source d'une inspiration artistique. On ne peut pas nier. Ça, c'est bien évident quand vous regardez la sculpture égyptienne, quand vous regardez la sculpture grecque à ses points de départ, elle est religieuse. C'est ça qui est très, très, très étonnant. Elle est religieuse. Et chaque fois qu'on se replonge dans le théâtre grec, on voit qu'il est religieux et qu'il est profondément religieux. Alors ça, c'est très important de comprendre cela, que l'art est né dans une attitude religieuse. Pierre Desfontaines, hein, qui est il est mort maintenant, mais qui était un grand ami et qui était le géographe de la géographie humaine. Pierre Desfontaines, dans le livre qu'il a écrit sur l'origine de l'art, mais de l'art pratique, la roue. C'est vrai, il faut découvrir la roue. C'est pas si commode que ça de découvrir la roue. Et tant qu'on n'a pas découvert la roue, le levier, capter le feu. Alors, il est persuadé, lui, dans ses recherches, que tout art est né dans un climat religieux. Que tout art, même celui qui est le plus utile, est lié à l'attitude religieuse. Dominer la terre. Hein, il y a la confirmation pour nous. Dominer la terre. Alors, dominer la terre, ça se fait par l'art. Ça se fait par la technique. Et c'est l'imperium de Dieu sur nous. Dominer la terre. Et donc, je crois que c'est très vrai. C'est très vrai que l'art est né à partir de là. Donc, les traditions religieuses ne peuvent pas représenter un mythe purement factice, imaginaire. Ce sont des mythes philosophiques, religieux, qui correspondent à une réalité profonde, parce que c'est un langage symbolique, qui correspond à quelque chose qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer d'une façon tout à fait précise, logique. Dès qu'on est en théologie naturelle, que nous allons voir, on est au-delà d'un langage logique. C'est pour ça que la logique mathématique nie la possibilité d'un discours sur Dieu. La philosophie analytique, aujourd'hui, nie la possibilité d'un discours sur Dieu. C'est pas étonnant. On l'avait dit d'avance. Donc vous cherchez quelque chose de complètement idiot. Parce que si Dieu existe et que je parle de Dieu, je ne peux pas parler de Dieu avec une logique mathématique. Impossible. Parce que Dieu, s'il est Dieu, eh bien, il est au-dessus de tout. Alors, je ne peux en parler que poétiquement. Je ne peux en parler donc que symboliquement. Et je ne peux en parler que analogiquement. Ce que nous essaierons de comprendre, ce que ça veut dire. Mais c'est très important de comprendre cela. C'est capital de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, alors, ce n'est pas la peine. Hein. Donc, le nom Dieu provient des traditions religieuses. Le philosophe, lui, essaie par son logos philosophique de découvrir la réalité humaine, de découvrir ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions. Et en découvrant l'homme dans toutes ses dimensions, il est obligé de comprendre que l'homme réclame le dépassement de l'homme. La vache ne demande pas le dépassement de la vache. La petite souris ne demande pas le dépassement de la souris. Tandis que l'homme demande le dépassement de l'homme. L'homme demande dans ses dimensions les plus profondes, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit, l'intelligence, le cœur, il est fait pour l'être et le bien. Et l'être et le bien nous conduisent vers l'absolu. Et c'est cet absolu que le philosophe découvre. Et quand il le découvre, il dit, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Vous voyez, le passage est très très important. Le philosophe découvre un absolu. Alors ici, je prends l'exemple que saint Thomas lui-même prend. Platon découvre un absolu. Aristote découvre un absolu. Indépendamment de toute révélation. en étant porté par les traditions religieuses. Il découvre l'absolu. Il ne découvre pas Zeus. Aristote ne dit jamais dans sa métaphysique, Zeus, j'ai découvert. C'est très curieux. Les néoplatoniciens le font, mais pas Aristote. C'est toujours ce qui m'a frappé. La différence entre Plotin et Platon, Plotin et Aristote, c'est que Plotin dit Zeus et Aristote dit l'acte pur. Qui est Dieu? Il dit simplement Dieu. Zeus, on le nomme. Aristote a un tel respect de l'acte pur qu'il ne le nomme pas. Il dit l'acte pur, qui est Dieu, qui est divin. C'est quelque chose de très très grand et très beau, cela. C'est quelque chose de magnifique de découvrir justement que l'intelligence est faite pour découvrir l'absolu et que l'intelligence, en découvrant l'absolu, découvre ce que les traditions religieuses appellent le divin, appellent Dieu. Donc voyez bien ce que le philosophe peut atteindre et ce que le philosophe n'atteint pas. Parce que ça, c'est capital de le comprendre. Il faut le rechercher petit à petit. Donc, nous nous plaçons dans une perspective d'une philosophie réaliste qui, par la philosophie première, essaie d'atteindre l'absolu. L'absolu que nous nommons Dieu, que nous appelons Dieu et que nous devons appeler Dieu. Le philosophe atteint l'absolu dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du bien. Aristote, acte pur, dans l'ordre de l'être. Platon, le bien en soi, le beau en soi, l'un en soi. Alors, on atteint quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons expérimenter. Philosophiquement, je n'expérimente pas Dieu. Je n'ai aucune expérience directe de Dieu. C'est pour ça que je ne commence pas ma philosophie et ma métaphysique par le point de vue religieux. Parce qu'au plan philosophique, le point de vue religieux repose sur les traditions religieuses. On est né dans un climat religieux. On est né dans des traditions chrétiennes. Et nous avons commencé à adorer Dieu avant de faire de la métaphysique. C'est bien évident. Et nous avons le sens de l'adoration de Dieu avant de chercher ce que c'est que l'être. Mais une fois qu'on a découvert ce que c'est que l'être en métaphysique, ce que vous avez déjà fait ou ce que vous ferez, vous comprendrez que quand je saisis l'être, je suis obligé d'aller jusqu'au bout des exigences de ce qui est. Et je découvre, à ce moment-là, l'être premier. Je découvre qu'il existe un être premier, que nous appelons Dieu, que nous appelons l'acte pur, que nous appelons le bien en soi, que nous appelons Dieu. Alors vous voyez que le problème de la théologie naturelle se pose de diverses manières. Et je le dis tout de suite pour vous. Il se pose d'abord d'une manière purement philosophique. L'itinéraire philosophique me conduit à la découverte d'un être absolu, d'un être nécessaire, que les traditions religieuses appellent Dieu. Deuxièmement, le problème de la théologie naturelle se pose à partir des traditions religieuses. Et c'est bon de savoir les trois itinéraires différents. C'est même nécessaire. À partir des traditions religieuses. Je suis né dans des traditions religieuses. Il arrive un moment où je réfléchis sur ces traditions religieuses. Comme je réfléchis sur les traditions familiales. Comme je réfléchis sur les traditions politiques. Et j'essaie de comprendre la valeur de ces traditions religieuses. Est-ce que ces traditions religieuses restent dans des mythes si vénérable qu'il soit. Ou est-ce que ces traditions religieuses, à travers les mythes, saisissent quelque chose de réel? Et je dois donc, à partir de là, me demander si le créateur des traditions religieuses est une réalité. Ou est-ce que ce n'est pas une réalité? Et si je suis chrétien, la foi me fait adhérer à un Dieu qui se révèle à moi. Je dois donc me demander si la foi me fait toucher quelque chose de réel, si le Dieu de la foi est une réalité ou si c'est un mythe. Donc vous voyez, vous avez trois perspectives par lesquelles vous entrez en théologie naturelle. Et les trois sont philosophiques, hein, et nous maintenons toujours les trois. Parce que de fait, concrètement, nous vivons une tradition religieuse, concrètement, nous sommes chrétiens, et concrètement, nous essayons de faire de la philosophie. Donc, il y a bien trois avenues par lesquelles j'essaie de découvrir le problème de la théologie naturelle. C'est important de voir que le problème de la théologie naturelle a quelque chose de tout à fait différent des autres parties de la philosophie. Les autres parties de la philosophie reposent directement sur l'expérience. Je peux toujours dire à quelqu'un, tu sais bien ce que représente l'expérience du travail. Je peux toujours dire à quelqu'un, tu sais bien ce que représente l'expérience de l'amour d'amitié. Tu sais bien ce que représente la coopération. Tu sais bien ce que représente d'être limité dans son corps, d'être dépendant du milieu dans lequel on est. Tu as besoin d'oxygène. Et s'il fait trop chaud, on ouvre la fenêtre, parce qu'on a besoin d'oxygène. Ouais, la première fois, on fait l'expérience du chauffage artificiel. Hein. C'est douloureux, ça. On aime mieux la nature toute pure, mais comme on est des pauvres êtres fragiles, on a besoin du chauffage artificiel. Alors, l'expérience qu'on a besoin de respirer, parce que le chauffage artificiel ne nous fait pas respirer. Il nous permet d'avoir un peu plus chaud, mais autrement, on a besoin de respirer. L'expérience, tout le monde fait ça. Réfléchissez là-dessus, vous aboutirez nécessairement au vivant. Et vous aboutirez nécessairement à la philosophie de la nature. Tandis que je ne peux pas dire la même chose quand il s'agit de la théologie naturelle. Je peux dire réfléchissez, réfléchissez beaucoup, vous avez vers l'expérience de Dieu. Non, non, non. Ah, vous aurez peut-être des imaginations, ça c'est peut-être. Dans la caverne, de temps en temps, on a des imaginations extraordinaires et des illuminations. Un beau jour, je me suis réveillé avec une grande lumière, c'était Dieu. J'en suis pas sûr du tout. J'ai entendu une voix. Je suis pas sûr du tout, c'est Dieu, j'en suis pas du tout. Peut-être que vous, on va voir les fruits. Et par les fruits, on verra si c'est réel ou imaginatif. Puis si on est chrétien, ah, c'est différent. En tant que chrétien, je sais que je contacte direct avec Dieu. Alors je peux entendre comme le petit Samuel, une voix qui me réveille. Il me dit, Samuel, Samuel. Alors vous dites, je me voici. Bon, alors vous pouvez entendre une voix qui vous dit, Étienne, Étienne. Arnaud, Arnaud. Hein. Et je venais, alors, vous vous réveillez subitement. Et vous dites, ça y est, j'ai entendu une voix. C'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux. Attention, notre foi ne repose pas sur nos expériences. Heureusement, si je devais attendre d'avoir une expérience dite mystique avant de croire, non, ma foi est plus radicale que mes expériences mystiques. Si je n'ai jamais entendu la voix de Dieu durant toute ma vie et que je suis croyant, c'est suffisant. La foi va plus loin que les expériences mystiques. C'est pour ça que ma foi est contemplative et que mes expériences mystiques ne le sont pas toujours. Mes expériences dites mystiques ne le sont pas toujours. Ça peut me conduire à une très grande dévotion, mais ça ne me rend pas toujours contemplatif. Tandis que ma foi est contemplative. Il faut être farouche là-dessus. Farouche. Vous voyez ? Parce qu'il s'agit de déblayer le terrain. Et toute ma vie repose sur le roc. et non pas sur mes expériences. C'est très bien si j'ai des expériences mystiques, tant mieux, hein, ne les chassons pas, mais purifions-les par la foi. Purifions-les par la foi. Je n'ai donc pas d'expérience philosophique de Dieu. Je n'ai pas d'expérience métaphysique de Dieu. Je peux avoir une expérience religieuse du sacré. Ce lieu est un lieu sacré. Le tremblement sacré en face de certains lieux, en face de certains arbres, en face de certains animaux. On peut avoir un tremblement sacré. C'est une expérience. Le tremendo. Je peux avoir cette expérience si au fond, en moi, l'attitude religieuse est particulièrement développée. Mais ce n'est pas l'expérience de Dieu. Non, non. C'est l'expérience du sacré, de votre dépendance, de votre petitesse, de votre rien du tout. En face de quelque chose qui vous dépasse. En face de quelque chose qui dépasse tout. Je ne peux pas, à partir de là, fonder la théologie naturelle. La théologie naturelle ne se fonde donc pas sur l'expérience immédiate. Alors que toutes les autres parties de la philosophie se fondent sur l'expérience immédiate. La théologie naturelle se fonde sur une conclusion, mais une conclusion d'un type tout à fait particulier, qui n'est plus une conclusion, qui est la découverte d'un principe, qui est la découverte d'un absolu, qui est la découverte d'une réalité qui est la réalité. Toute la théologie naturelle se fonde sur la découverte de l'absolu, le plus absolu qui soit, et que nous appelons Dieu. Toute la théologie naturelle se fonde donc sur les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, sur les voies d'accès vis-à-vis de l'être nécessaire que nous appelons Dieu. Les cinq voies de saint Thomas que nous devons reprendre, que nous devons saisir au niveau métaphysique, au niveau philosophique. Donc, toute la théologie naturelle se fonde sur la philosophie première. La philosophie première est le fondement de la théologie naturelle. C'est le fondement, au sens très très fort. Si je n'ai pas de métaphysique, je ne peux pas avoir de théologie naturelle. Ah, vous voyez, ce que nous faisons n'est pas commode, hein ? Je présuppose que vous avez une métaphysique. Alors, tous n'en ont pas, n'est-ce pas ? Tous n'en ont pas. Je présuppose ça. Mais après tout, vous avez la foi. Dans la foi, vous savez que Dieu existe. Vous appartenez à des traditions religieuses, la plupart d'entre vous. Et selon ces traditions religieuses, Dieu existe. Il est le Père. Il est providence. Alors, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Je sais que je devrais revenir au fondement. Je sais que je devrais revenir à ce fondement que me donne la philosophie première des cinq voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. Je le sais. Le jour où je ne le sais plus, la théologie naturelle croule. Si je disais, avec un a priori qui, hélas, aujourd'hui est si courant, la métaphysique n'existe pas. Si je disais ça avec Heidegger, la métaphysique n'existe pas, elle est terminée. Je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est de penser l'être. Or, je sais qu'en pensant l'être, même en le pensant très très fort à la manière de Heidegger, je n'arriverai jamais à dire que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Pour Heidegger, il n'y a pas de théologie naturelle. C'est impossible. Parce que pour lui, penser l'être, c'est se mettre dans un climat particulier, très spécial, mais ce n'est pas philosophique. C'est un au-delà de la philosophie, c'est une attitude très spéciale, très particulière, c'est une attente que Dieu se révèle. Mais que je ne peux saisir Dieu que si Dieu me parle. Donc je ne peux parler de Dieu que si Dieu me parle. tandis que je prétends que je peux parler de Dieu même si Dieu ne me parle pas. Parce que Dieu m'a parlé en créant l'univers. Et Dieu a parlé en me créant. C'est une parole silencieuse, mais c'est une parole quand même, une certaine parole, au sens très 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 fort. Dieu est venu au-devant de moi parce qu'il est créateur. Et ceci, si je suis croyant, si je suis catholique, je dois l'affirmer. Ça fait partie de ma foi. Les choses visibles me conduisent à l'invisible. On ne dit pas « la parole de Dieu me conduit à l'invisible ». Non, les choses visibles me conduisent à l'invisible. Il faut bien saisir cela. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse, parce que c'est quand même intéressant à voir ça. Dans le livre de l'être à Dieu, on a relevé tous les textes des pères de l'Église où, dans la révélation, il nous était dit le passage des choses visibles à l'invisible. Et c'est très impressionnant de voir combien l'Écriture a insisté sur ce fait. Donc, si on est croyant pleinement, c'est-à-dire si on est catholique, on voit que ma foi m'oblige de voir qu'il y a une voie d'accès philosophique à l'existence de Dieu. Je sais que l'Église a condamné le fidéisme. Et le fidéisme, il est devenu très très grand aujourd'hui à cause de Luther. Pour Luther, l'intelligence est corrompue et donc notre intelligence ne peut pas atteindre l'existence de l'être premier que nous appelons Dieu. Et j'allais dire le cancer de Luther est devenu un cancer généralisé aujourd'hui. L'infiltration de Luther s'est faite même à travers les théologiens catholiques. De sorte qu'un théologien de Rome me disait « 95% des théologiens d'aujourd'hui sont fidéistes. » C'est-à-dire n'admettent pas la théologie naturelle. C'est pour ça que nous la faisons. Pour répondre à ce fidéisme, essayer de comprendre que nous devons être fidèles à l'enseignement de l'Église jusqu'au bout. Et l'enseignement de l'Église consiste à nous dire que si nous sommes croyants, notre intelligence peut atteindre l'existence de Dieu. Et ça, c'est très très important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est capital, ça. Et si vous ne voyez pas bien cela, notez vos objections et puis on vous y répondra. Parce que ça, on peut répondre à toutes les objections. Parce que c'est la vérité. Alors quelquefois on est devant un mur, ça c'est très vrai, on est devant un mur à cause de traditions. Si on est dans des traditions protestantes, on a un grand-père qui était protestant, alors pas commode, c'est pas commode du tout. Pour Israël c'est très différent, parce que Israël c'est l'écriture, et dans la sagesse c'est dit. Et dans toute l'écriture c'est dit, pas seulement saint Paul, c'est dit à travers toute l'écriture, que les réalités visibles conduisent aux réalités invisibles. Je sais très bien qu'il y a toute une tradition à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur du peuple juif, qui est une tradition agnostique, maïmonide, qui dit qu'on ne peut pas. Et comme c'est plus facile, ça serait tant mieux. Alors vous retrouvez à l'intérieur du judaïsme, comme à l'intérieur du christianisme, comme à l'intérieur d'Israël, qu'à l'intérieur, je veux dire, des musulmans, vous retrouvez trois traditions agnostiques, soi-disant pour exalter la foi. Et c'est juste inverse. Dire que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, c'est justement ce que saint Thomas dit, les préambules de la foi, préambula fidei. Il faut retenir ce terme. Les préambula fidei. C'est ce que l'intelligence humaine est capable d'atteindre. Regardez le contrat Gentiles. Et dans le contrat Gentiles, c'est montré de façon très nette. Ce que notre intelligence humaine est capable d'atteindre, notre intelligence humaine doit l'atteindre. Parce que la foi ne favorise pas la paresse. Et comprendre que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu nous aide à être plus croyants. Parce que ça nous fait mieux comprendre exactement ce qu'est la foi et ce qu'est l'intelligence. C'est le jour où votre intelligence est parfaitement développée que vous comprenez beaucoup mieux ce que c'est que la foi. Parce que vous comprenez que la foi, c'est une super intelligence. La foi dépasse l'intelligence. C'est une lumière divine qui m'est donnée. Si c'est une lumière divine qui m'est donnée, elle est reçue dans mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus foncier. Mon intelligence mue par un amour divin qui devient capable de recevoir cette lumière divine. Et donc, si mon intelligence est capable d'atteindre l'existence de l'être premier que nous appelons Dieu, nous devons le faire. C'est un devoir. Nous n'y arrivons pas tous. Et saint Thomas le dit. À cause de la paresse, nous avons tous été paresseux, mais à coup de pas. Nous avons tous été paresseux, à cause de la paresse, à cause qu'on n'a pas le temps. Alors vous, vous avez le temps. À cause aussi de certains plis de notre intelligence qui font que nous avons beaucoup de peine d'entrer dans ce que c'est que l'intelligence métaphysique. Mais notre intelligence est capable de ça. Alors voyons, peut-être très bien capable en écoutant un cours, de découvrir cela. On peut très bien être incapable de le développer soi-même. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que quand on est devant quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, à cause de son positivisme, à cause de son marxisme, à cause de telle ou telle idéologie athée, faisons grande attention. N'entrons pas trop vite dans le combat. Entrons dans le combat si on a une intelligence métaphysique suffisamment formée. Mais si on n'a pas une intelligence métaphysique suffisamment formée, attention, parce qu'on donnerait de l'eau au moulin de celui qui se dit athée. Alors il faut faire attention. À ce moment-là, on fait une proclamation de foi. Et puis on dit que dans la foi, on sait que des grandes intelligences l'ont prouvé, l'ont découvert. Et alors, on peut prendre Bergson, par exemple. Parce que c'est évident que Bergson, lui, a découvert à sa manière la voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Et c'est impressionnant, évidemment, de voir le cheminement d'un Bergson. Parce qu'il est tout proche de nous. Le cheminement d'un Heidegger. Heidegger n'est pas athée. Mais c'est un cheminement, évidemment, très imparfait. Parce que si vous donnez le cheminement de saint Thomas, on dira, oh, c'est pas étonnant, il était du Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, au biberon, croyant Dieu, c'est sûr, il a été élevé dans un milieu purement chrétien, c'est pas étonnant. Et alors on vous citera d'autres, évidemment, qui ont dit que c'était très difficile d'atteindre l'existence de Dieu. C'est très vrai, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut être prudent. Parce que c'est pas commode la théologie naturelle. C'est magnifique. C'est de faire une escalade sur l'Himalaya. Pas le Mont Blanc, l'Himalaya. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai, on se situe à ce niveau-là. Alors, vous comprenez que c'est difficile hein, d'enseigner la théologie naturelle à ceux qui sont encore au biberon métaphysique. C'est pas commode du tout. Parce que c'est quelque chose qui nous met tout de suite sur le haut plateau. Tout de suite. Mais il faut comprendre que notre intelligence humaine, par la métaphysique, est capable de remonter jusqu'à l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu, d'un être nécessaire, d'un acte pur que nous appelons Dieu. L'intelligence humaine est capable. Croyez-le en croyant. Croyez-le en tant que vous êtes catholique. Parce que vous devez le croire. Et si vous avez de la peine à croire ça, il faut arriver faire tomber tous les obstacles. Parce que nous devons aller jusque-là au point de vue de notre foi catholique. croire que notre intelligence humaine est capable, on ne dit pas comment, mais capable de remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Vatican I l'affirme avec grande force. Or, Vatican II n'efface pas Vatican I. Vatican II confirme Vatican I. Et Paul VI a affirmé pendant tout son pontificat que c'était une exigence très très grande, parce que Paul VI avait senti la faiblesse des théologiens d'aujourd'hui, le fidéisme. Donc vous voyez bien que ce que nous faisons est un effort extrême, eschatologique. Un effort extrême, eschatologique au sens fort, c'est-à-dire ultime. C'est l'ultime effort intellectuel que nous faisons. Mais c'est quelquefois très utile, vous voyez, de le faire au point de départ. Parce qu'on voit mieux pourquoi on chemine. Quand vous devez faire une très grande route, c'est quelquefois bon de vous montrer, vous allez arriver là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Voyez ces aigles, hein, et vous allez monter jusque là. Et vous allez voir ce vol merveilleux, vous allez voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Alors ça nous donne un peu de courage, hein. Ça nous donne du thumos, comme disent les Grecs. Et le thumos intellectuel, c'est justement ce courage intellectuel qui fait qu'on veut aller jusqu'au bout, même quand c'est dur. Parce qu'on veut atteindre ce paysage merveilleux, étonnant, les préambula fidei, ce qui dispose à la fin.